Bonjour à tous. À quelques jours des fêtes de fin d'année, la ruée sur les tests Covid, succès des antigéniques. Il existe même du dépistage à bord de sa voiture, c'est le drive test. Le show médiatique du Premier ministre israélien, il a lancé la campagne de vaccination en se faisant lui-même vacciner. Il devra panser les plaies laissées par l'affaire Barbarin dans une des communautés catholiques les plus dynamiques du pays. Installation aujourd'hui à Lyon d'Olivier de Germay.
Les invités de la matinale, dans une vingtaine de minutes, Patricia Martin, vous recevrez...
Une figure des vers, Noël Mamère, qui signe le scénario de la bande dessinée Les Terrestres, illustré par Raphaël Macaron. Les sujets de réflexion ne manquent pas.
Et puis à 8h20, notre invitée sera Hélène Périvier. Elle est économiste à l'OFCE. On la recevra pour son livre « L'économie féministe » paru aux presses de Sciences Po.
France Inter.
C'est donc le retour des files d'attente devant les laboratoires et les pharmacies pour aller se faire dépister.
Les vacances scolaires ont démarré, les fêtes approchent et les Français sont nombreux à vouloir se faire dépister avant de retrouver la famille. Gros succès des tests antigéniques en pharmacie qui délivrent un résultat en moins d'un quart d'heure. Succès également pour ces dépistages en mode drive, c'est-à-dire à bord de sa voiture, comme devant la salle de spectacle Le Summum à Grenoble. C'est le reportage de Paul Tillier.
Ça se passe sur le parking. Il y a la queue comme quand on va dans un fast-food, sauf qu'à la fin, il n'y a pas de sandwich. Sur place, 9 infirmières, 1 médecin, 8 sauveteurs secouristes et 5 employés du Summum. Jérôme Riff est directeur général d'Alpexpo. Il a été chargé par la région d'organiser ce drive.
On peut venir à pied, on peut venir à vélo, on peut venir à voiture. Je pense que les gens sont motivés. Quand on leur demande, en fait, ce qui les intéresse, c'est de venir, de rester dans leur voiture, de ne pas bouger, ou pas forcément de se mêler aux autres. Et puis, c'est confortable. Donc, en fait, les gens arrivent et on va dire en l'espace de 30-35 minutes, ils sont en fait accueillis, testés. Et après, un infirmier ou un médecin vient leur donner le résultat.
En tout, sur 2 jours, 850 personnes sont passées par le drive. C'est le cas d'Anthony. Il est venu se faire dépister avant l'arrivée de ses parents pour les fêtes.
Parfait. Il y a un petit peu d'attente. Quoi qu'il en soit, il y a de l'attente d'aller là-bas aussi. Donc au lieu d'attendre debout ou posé tout sur des sièges, on attend dans notre voiture. C'est plus safe. Il dit bien le principe.
Sur plus des 1000 centres de dépistage déployés par la région Auvergne-Rhône-Alpes, le Summum est le seul drive. Mais vu la réussite de l'opération, ça pourrait vite changer, selon Sandrine Schex. Elle est conseillère régionale chargée de la santé.
On fera des bilans des différents sites aussi pour voir lesquels ont été les plus accessibles, ce que les gens en ont pensé. Et si effectivement c'est quelque chose qui peut rendre service et attirer aussi les personnes, ben pourquoi pas.
La salle de spectacle Le Summum pourrait même se transformer en centre de vaccination avant la reprise des concerts prévus en mai 2021.
Paul Tillier de France Bleu Isère. Coup de grâce aux retrouvailles de Noël en Angleterre devant la résurgence de l'épidémie outre-Manche. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a dû se résoudre à reconfiner Londres et le sud-est de l'Angleterre. Dès aujourd'hui, tout déplacement est interdit. Une décision justifiée en partie par l'apparition d'une nouvelle variante du coronavirus. À ce stade, rien n'indique qu'il est plus mortel, qu'il cause une forme plus sévère ou qu'il réduit l'efficacité des vaccins. On sait seulement qu'il est plus contagieux. En attendant demain l'examen par l'Agence européenne des médicaments du dossier du candidat vaccin de Pfizer-BioNTech, la Haute Autorité de Santé a apporté en ce début de week-end des précisions concernant la future campagne de vaccination. Et cette Haute Autorité a changé d'avis. Finalement, il n'y a pas lieu en France de vacciner systématiquement les personnes qui ont déjà été contaminées par le Covid-19. Rien ne s'y oppose si elles le souhaitent donc pour se faire vacciner. Lui, il a 71 ans, il s'est fait vacciner hier soir. C'est le Premier ministre israélien. Il en a fait un show médiatique pour lancer du même coup la campagne nationale de vaccination. Israël, qui a commandé des vaccins Pfizer et Moderna, enregistre 3000 nouvelles contaminations par jour, vient de passer la barre des 3000 morts pour 9 millions d'habitants. Proportionnellement, c'est beaucoup moins qu'en France. Mais alors que le deuxième confinement n'est pas encore totalement levé, le gouvernement israélien envisage un nouveau tour de vis. Frédéric Mettezo.
Une bonne piqûre de communication. À 20h, à la sortie du Shabbat, en direct dans les journaux télévisés en édition spéciale, Benjamin Netanyahou est le premier Israélien vacciné. Polo noir sans cravate, le Premier ministre est piqué dans le bras droit. C'est une petite piqûre pour l'homme, un pas de géant pour toute notre santé, déclare-t-il. Les personnels soignants commencent à se faire vacciner aujourd'hui, puis le grand public à partir de demain. Les caisses de sécurité sociale ont envoyé les SMS, les plus de 60 ans seront prioritaires. Les autorités espèrent vacciner 60 000 personnes par jour. Selon un sondage, 63% des Israéliens y sont prêts. Mais dans l'immédiat, l'épidémie galope. Le gouvernement se réunit aujourd'hui pour envisager de nouvelles restrictions, mais dès ce matin, il considère tous les pays du monde comme rouges. toute personne entrant en Israël devra respecter une stricte quarantaine. Jérusalem, Frédéric Mettezo, France Inter.
6 mois après les adieux officiels du cardinal Barbara, le diocèse de Lyon accueille enfin son archevêque aujourd'hui. Messe d'installation cet après-midi à la cathédrale Saint-Jean. Olivier de Germay, 60 ans, succède à Philippe Barbara, démissionnaire après son procès en appel dans l'affaire des agressions sexuelles, l'affaire dite Prena. Les catholiques lyonnais sortent d'une période tourmentée. Charge au nouveau patron de redonner confiance, Mathilde Imberti.
C'est un jeune archevêque à l'échelle de l'Église, Olivier de Germay, à 60 ans, ancien militaire, formé à Saint-Cyr, parachutiste, une vocation qui lui vient sur le tard. C'est un profil qui plaît, a priori, parmi les fidèles.
Ça faisait longtemps qu'on attendait. C'est un peu une personnalité un peu atypique, alors c'est pas mal.
Oui, il est jeune, donc je pense que pour un diocèse comme Lyon, c'est nécessaire d'être en bonne santé et il aura du pain sur la planche.
Sa nomination fait grincer des dents chez les plus progressistes. Une pétition circule pour réclamer au pape des évêques moins conservateurs. Olivier de Germay manifestait contre le mariage pour tous. Il n'est pas favorable à la communion des divorcés remariés. Le diocèse de Lyon présente un CV plus complet. Emmanuel Gobillard, son adjoint évêque auxiliaire.
Il est très attentif aux plus pauvres. Il est très proche des questions écologiques, de la bioéthique aussi. Je pense qu'il va être surprenant, vous n'arriverez pas à le faire rentrer dans des cases.
Et comment affrontera-t-il les séquelles de cette affaire dont on ne peut pas faire abstraction et qui a contraint le cardinal Barbarin à la démission? Le nouvel archevêque en a dit quelques mots sur les ondes de RCF, Radio Chrétienne Francophone.
J'ai senti ça très fort dans mes rencontres, l'idée qu'on passe à autre chose. On passe à autre chose, bien sûr, ne veut pas dire on tire un trait, on efface tout, parce qu'il y a ce qu'on disait sur les victimes et puis la prévention qui demeure. Mais tous ces conflits qu'il y a eu, maintenant il faut vraiment passer à autre chose et se recentrer sur la mission.
Premiers échanges publics pour Olivier de Germay cet après-midi lors de la messe dite d'installation. Lyon, Mathilde Imberti, France Inter.
Il est 7h37, alors on l'a vu en début de journal, hein, c'est effectivement la ruée sur les tests. Eh bien c'est aussi, période oblige, la ruée sur les cadeaux.
La plupart des magasins seront ouverts aujourd'hui, l'occasion de boucler les derniers paquets à mettre sous le sapin. On vérifie si personne n'a été oublié, certains commencent aussi tout juste les achats, un peu à la dernière minute. Justement, il y avait beaucoup de monde hier dans les rues de Cherbourg, à quelques jours du 24 décembre, le reportage de Raphaël Aubry dans un centre commercial.
Un sac, deux sacs, trois sacs dans les mains, voire plus. On fait ses derniers cadeaux en musique. Sylvia a trouvé son bonheur.
J'ai acheté deux, trois petits cadeaux pour des copines, voilà, et puis un jeu de Nintendo Switch, voilà, pour mes filles.
Ça, c'était sur la liste.
Voilà, c'est ça.
Attention de bien respecter la liste. Jean-Philippe, lui aussi, est ravi.
Alors là, j'ai un parapluie de Cherbourg, un bracelet de montre. Étant donné que ça fait une dizaine de jours que je fais le tour, donc j'ai choisi, il ne restait plus qu'à acheter.
Ici, pour beaucoup, tous les cadeaux doivent être bouclés ce week-end.
De toute façon, je sais pertinemment que j'ai oublié quelque chose. Ça reviendra par la suite.
Les derniers achats pour certains, d'autres commencent tout juste, surtout que la liste est longue pour Sophie et sa fille.
Alors plus d'une vingtaine. Franchement, on est à plus d'une vingtaine de cadeaux.
Alors on cherche des idées.
Plus ou moins, enfin, en rentrant dans les magasins, c'est des fois quand ça fait flash, coup de foudre, on prend.
Vous avez trouvé quoi?
Un caleçon humoristique et un polo aussi qui fait tenue habillée.
Bon, en réalité, Sophie n'est pas la seule, mais la période actuelle joue aussi, explique ce couple.
Ouais, ça a mis un coup quand même.
Au niveau des cadeaux, au niveau de la préparation du repas et tout ça, d'habitude, on sait déjà ce qu'on va manger et ce qu'on va faire, alors que là, bah non.
Heureusement, il reste encore quelques jours pour faire chauffer la carte bleue.
2020 s'achève et l'année Beethoven également, avec la sortie d'un dernier disque enregistré à Berlin pendant le premier confinement. La flûte est la reine, puisque les œuvres de cet album ont été écrites pour l'instrument. Beethoven et la flûte a été imaginée par Emmanuel Pahud, première flûte de l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Reportage de Stéphane Capron.
Dans cette sérénade, Beethoven rend hommage à Mozart. Il compose l'œuvre pour trois musiciens se tenant debout, une flûte, un violon, un alto. Beaucoup des pièces sélectionnées par Emmanuel Pahud sont des œuvres de jeunesse.
La flûte avait connu un âge d'or à l'époque baroque, ensuite à la Révolution française, chez Mozart. Et puis Beethoven lui s'intéressait beaucoup plus au piano, aux instruments à cordes avec les nouveaux archets qui permettaient des nouvelles techniques d'articulation, etc. Et finalement, c'est donc encore le jeune Beethoven qui a exploré les chemins, des variations, plein de choses comme ça. Donc voilà, on a des œuvres vraiment très riches, foisonnantes, avec plein de bonnes idées encore très fraîches.
Outre la concertante pour piano, flûte et basson, ou le seul duo pour flûte composé par Beethoven, Emmanuel Pahud a adapté la 8e sonate, surnommée la petite sonate en sol majeur, un arrangement pour flûte et piano.
La huitième sonate en sol majeur est une sonate qui se prête merveilleusement à être adaptée à la flûte, puisqu'on a besoin de changer deux, trois notes, et voilà. Le côté plus populaire et plus évident de ces thèmes dans cette sonate fait qu'elle se marie très bien avec le reste du programme.
Et pour enregistrer cette sonate, Emmanuel Pahut est accompagné au piano par un maître, le grand Daniel Barenboim.
Beethoven et la flûte par Emmanuel Pahud et Daniel Barenboim au piano chez Warner Classic.
Et dans un peu plus d'une heure, ce sera le moment classique avec Anna Sigalevitch. C'était le journal de Laurence Thomas, le temps de ce dimanche.
La météo avec les poulets de Loué. Par tous les temps, les fermiers de Loué élèvent leurs poulets en liberté. Loué, libre par nature.
Jean-Michel Golinski, avec des pluies marquées hein, ce matin sur la Côte d'Azur et le Var.
C'est vrai, mais ces pluies vont s'atténuer en seconde partie de journée. D'une manière générale, le temps va rester pluvieux aujourd'hui de l'est du Rhône à l'Alsace, avec de la neige sur les Alpes. Sur l'Occitanie, après une matinée maussade, les conditions vont s'améliorer. Sur la Corse, temps sec et ensoleillé. Et puis sur une large moitié ouest du pays, avant l'arrivée ce soir de nouvelles pluies par le Finistère, le ciel sera plus ou moins variablement ensoleillé, avec par moments des averses. Les températures, toujours un cran au-dessus des moyennes, vont pratiquement partout rester au même niveau qu'hier. Une douceur qui va perdurer jusqu'à mercredi, et comme cadeau de Noël, le retour de valeurs plus hivernales à partir de jeudi, voire même de la neige jusqu'en plaine.